Voilà, bonjour Sonra. Ça fait plaisir d'être là avec vous ce matin, de pouvoir poursuivre notre série sur site. Juste pour vous rappeler le contexte, on a étudié Tite 1 il y a 15 jours, la semaine dernière c'était Tite 2, et puis aujourd'hui on va poursuivre avec Tite, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce que David nous a partagé il y a 15 jours ? Donc les Crétois, excusez-moi pour ceux qui sont dans la salle, sont gloutons. Et puis Nicolas nous a dit dimanche dernier qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Donc il y avait beaucoup de choses en relation avec la nourriture. Alors en clair, plus sérieusement, avec Tite 1, on a vu ensemble qu'il est nécessaire de protéger l'Église à l'intérieur et face à l'extérieur. Et on a vu la semaine dernière avec Tite chapitre 2, pour que l'Église vive, il faut qu'elle soit nourrie d'une nourriture vivante, riche, équilibrée et spirituelle. Et aujourd'hui, je vous propose de voir une suite logique qui est la notion de servir l'Église à travers ce chapitre 3 de Tite. Et je vous propose de voir ensemble 6 qualités nécessaires pour servir l'Église convenablement. 6 qualités nécessaires pour servir l'Église convenablement. Il est nécessaire d'être soumis, d'être enseignable, d'être respectueux, d'être vivant, d'être impliqué, et enfin, d'être relationnel avec les autres. Alors je propose de commencer par lire les versets 1 de Tite chapitre 3. Je lirai dans la version Summer. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Ici, Tite nous explique qu'un serviteur doit apprendre à être soumis. Et c'est un thème qui revient souvent dans le Nouveau Testament. Dans Romains 13, Paul explique déjà que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Et c'est quelque chose qui concerne les Crétois. Souvenez-vous ce qu'on avait vu dans le chapitre 1, au verset 16. Les Crétois sont odieux, rebelles. Et en fait, il y a eu... les Crétois avaient cette réputation d'être particulièrement agités face aux autorités. Et en même temps, Paul leur explique ici qu'ils doivent se soumettre tout en étant prêts à accomplir toute œuvre bonne. Et tout de suite, on peut se dire, mais à quoi Paul fait-il allusion? Alors, si on revient dans Romains 13, que je vous ai cité juste avant, dans Romains 13, verset 6, Paul dit, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. » Autrement dit, Paul explique aux Crétois qu'une manière d'être soumis aux autorités, c'est de payer les impôts. Et là, on se dit, c'est la saison pour les Français, voilà. Et puis, bien sûr, il y a toutes sortes de réflexions qu'on peut se faire. Mais Jésus a bien dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et finalement, servir l'Église, c'est accepter aussi de se soumettre aux autorités en payant notre impôt, comme cela nous est demandé. Alors, il y a... attention, il y a différents types de soumission. Bien sûr, on a tout de suite l'idée de se soumettre, être soumis. Il y a une connotation péjorative qui peut aller avec cela. Mais la soumission dont Paul fait référence ici n'est pas une soumission absolue. Mais c'est une soumission à lorsque la liberté de conscience n'est pas entravée. Une soumission lorsque des lois aussi en vigueur respectent la justice. Pierre, qui était aussi un des disciples du Seigneur, lorsqu'il s'est retrouvé face au chef du peuple juif, qui lui demandait de ne plus parler du Seigneur Jésus et de ne plus aller dans le temple, a répondu fermement, jugez s'il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Et de la même manière, lorsque Paul a été emprisonné alors qu'il n'avait rien fait, et qu'en plus il a été emprisonné et lié avec des chaînes, alors que la loi romaine l'interdisait pour les citoyens romains, ce que Paul était, il a protesté, il a dit « Vous m'avez enchaîné, alors je suis citoyen romain, vous allez avoir des problèmes. » Donc être soumis n'est pas être dans une soumission absolue. Et je pense qu'on a un exemple très fort avec Martin Luther King, ce pasteur protestant américain qui, dans les années 50 et 60, a porté un mouvement de désobéissance civile pour l'égalité des droits civiques des Noirs américains. Et dans son célèbre discours, « J'ai fait un rêve », ou « J'ai un rêve », il dit ceci, « Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. » Il cite la Constitution américaine. Je rêve que mes quatre petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Martin Luther King, par sa prise de position publique, a pris la défense de personnes qui étaient mises à l'écart de la société américaine, envers et contre la constitution de ce pays. Il a démontré que l'Église avait un rôle à jouer pour la défense de personnes opprimées. Mais par-dessus tout, il a démontré qu'il y a une loi qui est supérieure à toute autorité. Et cette loi, c'est la loi de l'amour. La loi de l'amour du prochain. Et il a résumé cette idée en disant ceci. C'est Jésus de Nazareth qui a incité les Noirs à utiliser l'arme novatrice de l'amour. La soumission est donc quelque chose de complexe, mais qui n'est pas suffisant. Pour être un bon serviteur, il faut aussi être enseignable. Enseignable pourquoi ? Parce que dans ce chapitre de Tite 3, on retrouve 8 injonctions, 8 verbes à l'impératif ou sous forme impérative, où Paul ordonne à Tite de faire telle ou telle chose. Ça commence avec le verset 1 qu'on a lu, « Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre ». Au verset 9, « Évite ». Verset 10, « Avertis, écarte, hâte-toi de venir, salut ». Paul est dans une relation de maître à disciple. Et s'il fait cela, c'est parce qu'il sait que Tite est prêt à accepter ses ordres de sa part. Je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a 2 façons d'être enseignable. Un élève qui est dans une salle de classe, assis sur sa chaise, est quelqu'un d'enseignable. Mais finalement, il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller à l'école, il est assis sur sa chaise, le prof parle, il écoute. Ici, on est dans une relation d'adulte à adulte. Pour être enseignable, Tite a dû donner à Paul le droit de l'enseigner. Et ça, c'est une notion très importante parce que pour être enseignable par Dieu, il faut donner à Dieu le droit de nous enseigner. Il y a un jeune berger qui était assez sportif, musicien, un peu querelleur aussi, à la fois fort et sensible, qui a donné à Dieu le droit de l'enseigner. Et même lorsqu'il est devenu roi d'Israël, David avait cette prière dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Je répète cette dernière phrase. C'est un roi qui parle, celui qui a réussi à s'imposer sur le peuple d'Israël. Et il dit à Dieu, « Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Est-ce que tu as le souhait d'être enseigné ? Est-ce que tu saisis les opportunités qui sont à ta disposition pour être enseigné ? Est-ce que tu fais cette prière à Dieu de lui donner la possibilité de t'enseigner ? Est-ce que tu saisis les opportunités dans l'Église, ici même, pour être enseigné? Que ce soit par un groupe de croissance, que ce soit en profitant d'un tutorat, d'un mentorat de la part de personnes plus expérimentées. Au sein de notre association d'Église, il y a aussi l'été, la possibilité de participer aux cours de formation biblique à Teen Ranch. C'est aussi une occasion d'être enseigné et d'apprendre à être enseignable. Et puis on pourrait citer aussi le REF et puis toutes les opportunités de servir où finalement on est confronté à une situation où on doit recevoir des conseils de la part de personnes à qui on donne le droit de nous enseigner. Alors, non seulement un bon serviteur doit être soumis, il doit être enseignable, mais il doit aussi être respectueux. Et regardez ce que cela signifie être respectueux en lisant le verset 2. Le verset 2, qu'il ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, courtois, et qu'il fasse preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Je peux payer mes impôts avec le sourire sur mes lèvres, mais une vraie grimace dans mon cœur. Je pense que c'est facile à imaginer. Je peux serrer la main à une personne avec un grand sourire sur les lèvres, mais tout en l'insultant dans mon cœur et dans mes pensées. Le général de Gaulle a dit ceci. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Je peux être fier d'être français, je peux être fier d'être suisse, même suisse-allemand, je peux être fier d'être espagnol, congolais, vénézuélien, anglais, chinois, j'oublie quelqu'un, écossais, voire même toulousain, mais évidemment, je peux en être fier, mais tout en respectant les autres origines. Et ici, il y a un verbe qui m'a frappé, c'est le verbe dénigrer, qui ne dénigre personne. Tu vois, en public, c'est facile de te soumettre, de faire ce qu'on te demande de faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es en privé? Comment est-ce que tu parles en privé des autorités? Comment est-ce que tu parles des personnes que tu ne supportes pas, que tu n'aimes pas, que tu ne soutiens pas? Ici, il est question non seulement des autorités, mais à la fin du verset, c'est envers tous les hommes. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec une personne. J'ai le droit de ne pas supporter une personne. J'ai le droit de ne pas adhérer au choix politique d'une personne. Mais ici, Paul dit clairement que je dois faire attention à ce qui se passe, à ce qui sort de ma bouche et à ce qui se passe dans mon cœur. Le respect est une affaire intérieure et pas seulement une affaire publique. Je vous laisse une application. Si tu réfléchis aux personnes pour qui tu as peu d'estime, est-ce que tu as le courage de prier pour ces personnes? Pour servir l'Église, il est nécessaire donc d'être soumis, d'être enseignable et d'être respectueux. Si on s'arrête là, moi, je vous affirme que je connais plein de gens qui ne sont pas ici ce matin et qui ne mettront jamais les pieds dans une église et qui sont soumis, qui sont enseignables et qui sont respectueux. Et c'est des personnes que je respecte. Ce sont donc des qualités qui sont nécessaires et indispensables parce que si nous sommes, nous, dans cette église, soumis, enseignables et respectueux, nous allons être une église attractive qui va donner envie à d'autres de venir. Mais ce n'est pas suffisant. Gavin nous a dit tout à l'heure que Serena Williams a gagné Roland-Garros avec un service à 198 km/h. Pour pouvoir être une église qui avance et qui sert Dieu correctement, il faut que notre service soit puissant. Et d'où peut nous venir cette puissance? Eh bien, il faut que nous soyons des serviteurs vivants. Pas seulement soumis, enseignables, respectueux, mais aussi vivants. Et regardez ce que nous dit Paul à ce sujet dans les versets 3 à 8 qu'on va lire ensemble. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. C'est là une parole certaine et je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Quel constat fait Paul ici? Au verset 3, il fait le constat clair et net que les ordres qu'il dit à Timothée d'être soumis, d'être enseignable, d'être respectueux, c'est tout ce que lui n'était pas. Il dit bien qu'il était dans la révolte contre Dieu, l'inverse d'être soumis et enseignable. Il dit bien qu'il était vivant dans la méchanceté et dans l'envie. Il était haïssable et haïssant les autres, tout sauf respectueux. Et lorsqu'on lit bien sûr la vie de Paul, on réalise que c'était concrètement vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Paul? Comment cet homme révolté contre Dieu, plein de haine, respirant la menace, meurtrier, comment est-il devenu quelqu'un capable d'être soumis, enseignable et respectueux? Qu'est-ce qui s'est passé pour Paul? Verset 4, « Il nous a sauvés ». Et après on lit « Il l'a fait ». « Il nous a ». « Il a eu pitié de nous ». « Il l'a répandu ». « Il l'a fait ». Qui est ce « Il » Verset 4, quand Dieu, notre Sauveur, a révélé son caractère. Et qu'est-ce que Dieu a révélé? Quel est son caractère? Sa bonté et son amour pour les hommes. Paul a fait cette expérience extraordinaire de découvrir la bonté et l'amour de Dieu. Et comment est-ce que cette bonté et cet amour se sont révélés? Et parce que Dieu a pris l'initiative. Il l'a fait, il l'a fait. Il a répandu son esprit, il a donné son salut, il a rendu Paul héritier de la vie éternelle. Dieu a pris l'initiative de transformer Paul, Dieu a pris l'initiative de transformer Tite, et Dieu prend l'initiative de transformer chacun d'entre nous ici. Il dit bien que, au verset 4, c'est pour les hommes que l'amour et la bonté de Dieu ont été révélés. Et ça, c'est extraordinaire parce que, au verset 8, il est dit que c'est une parole certaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une parole certaine. Oui, c'est Paul qui le dit. Oui, Tite le croit. Mais est-ce que tu le crois? Comment le croire? Verset 8, c'est une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à accomplir des œuvres bonnes. Paul dit ici qu'un serviteur qui est soumis, enseignable, respectueux et vivant, c'est quelqu'un qui a cru en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Dieu? Si tu reprends ce passage que nous venons de lire à partir du verset 3 et que tu peux mettre ton prénom à la place des pronoms qui sont utilisés et que tu peux lire ce passage de la manière suivante. Alors, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais mettez votre prénom à la place. Mais quand Dieu, sauveur de Colin, a révélé sa bonté et son amour pour Colin, il a sauvé Colin. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que Colin a accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il a sauvé Colin parce qu'il a eu pitié de Colin, à cause de son amour et sa bonté, etc. Je vous laisse lire cela pour vous-même. Si tu peux lire ce passage en mettant ton prénom à la place de ces pronoms qui sont ici utilisés, ça veut dire que tu es un chrétien qui croit en Dieu. et non pas un chrétien simplement de père en fils. Ça veut dire que tu es un chrétien vivant et que tu es au bénéfice de la puissance de Dieu dans ton cœur. Alors, comme vous le voyez, Paul ne se limite pas à donner des injonctions morales à Tite. Il ne fait pas que de lui dire « il faudrait que tu sois ceci, il faudrait que tu sois cela ». Mais il lui donne l'énergie nécessaire pour être ceci ou cela. Mon grand-père, dans sa salle à manger, il a une grande horloge qui tous les samedis matins doit être remontée. Et c'est sa routine, tous les samedis matins, il prend la petite clé spéciale, il ouvre l'horloge et il la remonte, il remonte le mécanisme pour qu'elle puisse tourner. De la même manière, pour que notre vie, notre service dans l'Église soit performant, nous avons besoin de revenir toujours à cette simplicité de la bonté, de l'amour de Dieu qui nous a été offert alors qu'on ne méritait rien et qui rend notre service valable. Qu'est-ce que cela entraîne dans notre vie? Deux choses. Ça nous pousse à être impliqués et à être relationnels. Et je vous propose de terminer par ces deux idées. Être impliqué et être relationnel. Alors tout d'abord, être impliqué. Au verset 8, « Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Dans tout le livre de Tite, il y a 6 références aux œuvres bonnes, et il y en a 3 qui sont dans ce chapitre 3. On le retrouve verset 1, on le retrouve verset 14. Et il y a cette insistance sur le fait de s'appliquer à accomplir des œuvres bonnes. Ce n'est pas l'idée juste de faire des œuvres bonnes, mais de s'appliquer à. Et en fait, le mot grec qui est utilisé dans l'original pourrait aussi être traduit par « être hardi à » ou « se consacrer avant tout à ». Autrement dit, ces œuvres bonnes ne sont pas optionnelles, mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement que des œuvres bonnes? Un exemple, verset 13. « Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. » Concrètement, des chrétiens partent en voyage pour aller visiter d'autres églises. On leur donne les moyens de pouvoir faire ce voyage. Mais qu'est-ce qu'une bonne œuvre pour toi concrètement aujourd'hui? Je ne vais pas vous donner de définition précise, juste une anecdote. Au XIIe siècle, un nouvel arrivant à Paris entend un bruit régulier, quelqu'un qui frappe sans arrêt sur un objet dur. Il suit le bruit et puis il découvre un grand chantier sur l'île de la Cité. Et il voit 3 hommes qui travaillent. Il se dirige vers le premier qui travaille dur un morceau de pierre à l'aide d'un outil et puis il lui demande ce qu'il fait. Et il s'interrompt et l'homme lui répond « Je suis un tailleur du pierre, tu vois bien que je suis en train de tailler une pierre, mais ne me dérange pas plus que ça. » Il y en a un second qui fait la même chose, il va vers cette personne « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» L'autre, il arrête d'utiliser son marteau et son burin. Je taille la pierre angulaire d'une arche pour le sommet de la voûte, pour qu'elle tienne. Okay. Il interroge un troisième, et puis le troisième lui dit, avec un grand sourire sur les lèvres, « Moi, je suis en train de bâtir une cathédrale. » On peut tous être en train de servir d'une manière ou d'une autre. Mais la question n'est pas tant de savoir qu'est-ce que la bonne œuvre qu'on est en train de faire. Mais la question, c'est de savoir pourquoi on l'a fait et dans quel objectif. Paul ici exhorte Tite à être impliqué dans son service, à pratiquer de bonnes œuvres, mais à le faire pourquoi? Parce qu'il est tellement convaincu par l'amour et la bonté sans borne de Dieu qu'il ne peut que laisser son cœur déborder et faire de belles œuvres. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne œuvre aujourd'hui? C'est tout simplement la preuve de la foi vivante que Dieu a mise dans ton cœur, la preuve que tu appartiens à Dieu et que tu souhaites lui faire plaisir. Être impliqué nécessite aussi d'être relationnel. Et c'est ce qu'on peut lire dans les versets 8 à 15, qu'on va lire pour terminer. On relit le verset 8 et les suivants. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les controverses et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église. Car tu peux en être certain, un tel homme est sorti du droit chemin. Il fait le mal et prononce ainsi lui-même sa propre condamnation. Quand je t'aurai envoyé Arphémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le juriste, et d'Apollos, afin que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à accomplir des œuvres bonnes pour faire face à tout besoin. Ainsi, leurs vies ne seront pas improductives. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Si tu veux que ton implication dans l'Église ait un impact, tu dois faire deux choses. Une chose négative, versets 8 à 11. Refuser l'esprit de division. Si quelqu'un cause des divisions, le mot grec, c'est la notion d'être hérétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être hérétique ? Bien, c'est tout simplement quand tu choisis d'affirmer quelque chose qui est en marge de ce que la majorité pense. Autrement dit, tu choisis par toi-même. C'est-à-dire que ta volonté propre prime avant l'intérêt commun. C'est cela, sortir du droit chemin, d'accord ? Être perverti dans la version seconde. Et la conséquence de ce choix égoïste, personnel, c'est la division. Une personne qui provoque des divisions, en fait, c'est une personne qui refuse des avertissements. C'est-à-dire une personne qui n'est pas enseignable. À l'inverse, qu'est-ce que Paul propose à Tite ? Paul propose à Tite de faire partie d'une équipe. Et cette équipe, elle est assez extraordinaire. Quand on voit la liste des personnes qui sont là, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé. C'est de voir que ce sont des personnes en qui Paul a confiance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il demande à Tite de venir le rejoindre, mais en même temps, il prévoit que Arthémas ou Tychique prennent la place de Tite en Crète, de telle sorte qu'il y ait toujours des personnes pour encourager les chrétiens qui sont en Crète. Tychique, c'est sûr, d'après ce qu'on lit dans les autres passages, Tychique, c'est une personne qui était chargée de porter la lettre de Paul aux Éphésiens. Il a peut-être aussi porté la lettre de Paul aux Colossiens. Paul n'aurait pas confié ses lettres à n'importe qui. Donc ce sont des personnes de confiance. Et ces personnes-là sont prêtes à s'entraider les unes les autres pour leur voyage, etc. Paul est donc entouré d'une équipe de personnes qui s'aiment les unes les autres, qui se font confiance, qui s'entraident et qui sont soudées pour aller de l'avant ensemble. Et le fait de faire partie d'une équipe est aussi une protection contre les divisions et contre le fait de mettre ses intérêts en avant. Et là, j'aimerais juste faire une parenthèse toute pratique par rapport à ce que nous vivons ici à Sonra. Au cours de l'année, on organise différents événements, des repas pour les seniors, la kermesse il y a quelques semaines, et puis le week-end d'église, etc. Pourquoi est-ce qu'on organise tout ça ? Quel est l'objectif de faire une kermesse ? Certes, ça peut être de se faire connaître dans le quartier. Certes, ça peut être de passer, de recevoir un bon enseignement en étant assis tranquillement à Teen Ranch. Mais il y a un aspect qui est essentiel. C'est qu'à travers ces événements, nous développons nos relations. Nous développons notre connaissance les uns des autres et notre volonté d'avancer ensemble. Et aussi d'apprendre à connaître nos caractères, ce qu'on aime chez l'autre et ce qu'on a de la peine à supporter. Mais on apprend à se serrer les coudes et aller de l'avant ensemble. Et c'est ainsi que Dieu nous a créés et c'est pour ça que Dieu propose de faire partie d'une église. C'est parce qu'il nous a créés comme des êtres relationnels. On peut vivre seul et être très bien sans parler à personne, mais ce n'est pas sain et ce n'est pas équilibré pour notre développement. Est-ce que, et c'est une application que je te laisse, est-ce que tu es impliqué dans le développement de tes relations au sein de l'Église? Quand je parle d'être impliqué, je parle d'être impliqué de manière intentionnelle. Qu'est-ce que tu mets en place pour que tes relations au sein de l'Église se développent? On arrive à la fin de cette série sur Tite. En même temps, on arrive à la fin de notre thème annuel sur l'Église, pourquoi faire. Et je pense que résumer simplement ce qu'on a entendu peut nous aider à vraiment faire une bonne transition vers ce qui va être dit à Teen Ranch et qui sera le point final à notre thème annuel. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec Tite ensemble? Trois choses. Que l'Église a besoin d'être protégée. Que l'Église a besoin d'être nourrie. Et enfin, ce matin, on a vu que l'Église a besoin de serviteurs, qui est des qualités essentielles, à savoir être soumis, enseignable, respectueux, vivant, I comme impliqué et R comme relationnel. Et ces caractéristiques-là sont essentielles et vont nous permettre, nous, Église, Sonora, de pouvoir grandir et de pouvoir nous développer et être en bonne santé. Et je crois que ça donne envie par rapport à ce qui va être partagé à Teen Ranch par Philippe Monnery. Je vous rappelle le thème, l'évangélisation dans l'Église, assumer, partager, déléguer. Et ce sera un bon point final à notre thème annuel. Je vous propose, pour terminer, quelques secondes de silence. Si vous le souhaitez, relisez ce passage, mettez votre nom à la place des pronoms. Priez par rapport aux applications que j'ai proposées. Et puis Gavin, je te laisserai prier.